Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Baquès, la présidente de la province sud des chefs de file des loyalistes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, l'actualité de ces derniers jours est surtout métropolitaine, entre la chute du gouvernement Bayrou, la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, alors que l'on attend encore la constitution de son gouvernement. Quelles sont les conséquences de cette instabilité politique nationale pour la Nouvelle-Calédonie et pour la mise en œuvre de Bougival? Nous allons bien sûr vous interroger sur ce point, alors que vous venez de passer quelques jours en métropole où vous avez eu de nombreux contacts. Mais en Calédonie, on n'en finit pas de panser les plaies du 13 mai 2024, et c'était à l'ordre du jour de l'Assemblée de province que vous avez présidée hier. En juillet dernier, le Conseil provincial de la délinquance avait arrêté un plan sur 3 ans, avec 5 axes prioritaires, 30 actions. Vous commencez à les décliner. La sécurité, ça reste l'une des préoccupations essentielles des Calédoniens et des habitants de la province sud.
Oui, le rôle de la province sud, c'est d'essayer de, dans la mesure du possible et dans le cadre de ses compétences, d'améliorer le quotidien des Calédoniens. Donc là, c'est vrai que le sujet de la sécurité est un sujet qui pollue le quotidien des Calédoniens. On a une augmentation du nombre de cambriolages. On a un sentiment d'insécurité qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une réalité, puisque les chiffres le prouvent. Et on doit apporter des réponses à ça. Alors malheureusement, la province n'a pas énormément de compétences. On n'a pas de compétences en matière de répression. On aimerait faire beaucoup de choses sur l'alcool, puisque la Convention citoyenne a fait des propositions très concrètes pour essayer de lutter contre ce fléau, celui-là et d'autres addictions.
– Vous avez donc déjà abaissé…
– On a déjà fait plein de choses, mais ça ne suffit pas. Et je pense que malheureusement, pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut sans doute, moi j'ai proposé un fichier d'interdiction de consommation d'alcool pour les gens qui ont été condamnés. Ça relève de la compétence de l'État. Augmenter l'âge auquel on peut consommer de l'alcool, ça relève pas de la compétence de la province non plus. Mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut également sur les mineurs. On a travaillé sur, vous savez, l'errance des mineurs, les mineurs qui sont dehors entre 22h et 5h du matin. Il y a eu des enquêtes sociales qui sont menées. On a été jusqu'à suspendre un certain nombre d'aides sociales aux parents qui abandonnent leur autorité parentale. Donc on continue. Maintenant, on avait un problème sur l'exécution de cette histoire d'errance des mineurs, puisqu'en fait, les mineurs qui étaient pris par les forces de sécurité, on n'avait aucun endroit où les faire attendre, en attendant que les parents, qui sont souvent démissionnaires, viennent les chercher. Donc on avance là-dessus. Et puis on a mis en place une réponse là très concrète aux problématiques de sécurité du quotidien, puisqu'on a mis cette fameuse aide Sud Sécurité qui permet d'aider les personnes dans des logements individuels à s'équiper en équipement de sécurité.
Alors il y a des précisions qui sont demandées sur cette mesure Sud Sécurité pour sécuriser son habitation. Ça concerne essentiellement les propriétaires. Les locataires s'interrogent. Est-ce que nous, on peut faire sécuriser notre habitation et faire prendre en charge par le propriétaire, évidemment? Comment ça va se passer concrètement?
Oui, c'est ça. En fait, c'est effectivement soit le propriétaire de son habitation propre, soit le propriétaire qui loue son habitation. Mais c'est bien le propriétaire qui fait l'investissement, puisque c'est un investissement qui a vocation à rester sur place. Donc ça ne peut pas être le locataire qui fait cet investissement. C'est le propriétaire qui le fait avec une prise en charge de la province. Mais c'est effectivement à la fois pour les propriétaires qui habitent leur habitation et les propriétaires qui louent un locataire différent.
Avec aussi une volonté de soutenir les entreprises de la province sud. Hein, c'est les entreprises de la province qui peuvent faire les travaux qui seront pris en charge.
Oui, puisqu'en fait, ce seront les entreprises qui sont inscrites sur Sudpro, qui sont donc les entreprises de la province sud qui pourront bénéficier de cette aide de la province.
Sudpro, ça marche toujours. On a eu l'impression que vous étiez un peu victime du succès de l'opération.
Oui, on est clairement victime du succès de l'opération. On a eu une session ce matin. Malheureusement, les crédits à nouveau de 120 millions ont été consommés en quelques minutes. On arrive malgré tout au bout des patentés qui pouvaient bénéficier du système. Donc on a encore une session au début du mois d'octobre où on va essayer de finaliser l'opération. Mais c'est vrai que il y a des gens qui voulaient pouvoir bénéficier très rapidement des crédits, qui n'ont pas pu valider leur devis. Les services sont très efficaces, ils traitent individuellement les gens qui ont connu des difficultés de connexion, etc. Mais c'est vrai qu'on est un peu victime de notre succès, tout simplement parce que les entreprises souffrent, parce que les patentés et les petites entreprises ont été les oubliés du système. Ils n'ont pas du tout été aidés par l'État, ils n'ont pas bénéficié du chômage partiel, puisque évidemment, quand c'est des entreprises individuelles, ils n'ont pas de salariés. Donc c'est vrai que c'est eux qui ont beaucoup subi, et donc cette aide, elle était à la fois bienvenue, mais du coup, sans doute insuffisante pour un certain nombre.
Alors, l'une des conséquences des émeutes de 2024, c'est une crise économique gigantesque avec une paupérisation d'une grande part de la population. Ça se traduit notamment dans le logement, des difficultés pour payer son loyer, des risques d'expulsion de son domicile. C'est ce qui vous a guidé dans la mise en place d'une nouvelle politique du logement social que vous avez fait adopter hier également.
Oui, on a travaillé avec les communes de l'agglo sur le sujet. On a aussi une question de densité de population dans un certain nombre d'ensembles de logements sociaux. Et il faut travailler sur un meilleur aménagement du territoire, sur le fait que à la fois les populations qui sont dans les logements sociaux s'y sentent bien, qu'on puisse avoir des aménagements autour, et en même temps que ça ne soit pas des poches d'insécurité, de violence,
voilà,
comme
on
a connu
le 13
mai.
C'était vraiment l'habitat social était l'un
clairement.
Des...
Donc là, on veut dédensifier un certain nombre d'ensembles. Voilà, on veut essayer de changer. Vous savez, la dynamique, sans critiquer mes prédécesseurs, mais Philippe Gomès avait instauré le 1000 logements sociaux par an construits. Alors ça faisait travailler le BTP, c'était très bien, sauf qu'au final, on a fait de la quantité, on n'a pas fait forcément de la qualité. Et là où on pensait résorber les squats, en fait, ça n'a rien résorbé du tout. Ça a fait descendre des populations du Nord et des îles qui sont allées soit en squat, soit en logement social. Et au final, on a un développement encore plus important des squats aujourd'hui. Donc c'était clairement pas la solution.
Alors c'est aussi l'un des objectifs, hein, de résorber les squats, mais on en parle depuis des années, des décennies. Est-ce qu'on progresse et est-ce que vous avez un plan pour permettre effectivement de diminuer cet habitat plus ou moins insalubre, disons-le, et puis qu'il a aussi... C'est quand même des poches d'insécurité aussi.
Oui, clairement. Et alors, le problème, c'est qu'on n'est pas aidé sur le sujet. Pour être simple et pour que les gens comprennent comment ça fonctionne, pour résorber un squat, il faut d'abord que ce soit le propriétaire qui demande, qui fasse la démarche de sa résorption. Si on prend par exemple la province, c'est en gros 5% des terrains squattés sont de la province. Donc c'est pas la province qui peut faire la démarche. C'est soit en général la mairie, le gouvernement, un privé, enfin. Mais donc déjà, il faut que ce soit le propriétaire. Ensuite, une fois que le propriétaire fait la démarche pour qu'il y ait un désquattage, eh bien en fait, il faut... il fallait jusqu'à présent que chacune des personnes qui occupent ce squat accepte une proposition de relogement. Or, la plupart du temps, les gens qui vivent dans ces squats n'ont pas les moyens de payer un loyer, n'ont pas les moyens de se reloger. Donc, soit n'ont aucune solution de relogement, soit les refusent parfois, parce que parfois, ils préfèrent rester en squat. Et si on n'a pas relogé tout le monde, eh bien, on ne pouvait pas désquatter. Donc là, l'État a assoupli un peu cette disposition, puisque maintenant... Il suffit finalement qu'on fasse une proposition de relogement, mais il faut aussi que sur le terrain qui serait désquatté, il y ait un projet de réaménagement. Donc tout ça fait que les conditions qui sont posées en particulier par l'État sont très très dures c'est très très dur d'y répondre, et donc c'est compliqué de désquatter. Je pense, mon point de vue, c'est qu'il devrait y avoir un accompagnement de l'État plutôt que de mettre des conditions difficiles pour que, bah, d'une part, effectivement, on résolve cette problématique, et d'autre part, qu'on trouve des solutions réelles de relogement. Et quand on sait que 98% du logement social est en province sud, il y a un vrai problème. Si on veut avoir une fixation des populations là d'où elles viennent d'une part, là où elles se sentent bien d'autre part, il ne faut pas qu'on ait 98% du logement social en province sud.
On a constaté un mouvement de population quand même depuis le 13 mai. Est-ce qu'il y a des habitants des squats notamment qui finalement sont repartis dans le nord, dans les îles? Est-ce que ça se mesure déjà ou pas encore?
C'est difficile de le mesurer pour les squats. On a des mesures pour le logement social. On voit que sur le logement social, on a une partie de la population effectivement qui est repartie en tribu, qui est repartie là où ils étaient avant, qui va dans la famille. On a des réponses qui sont différentes. Sur les squats, on n'a pas de mesure à ce stade.
Alors, autre conséquence, il y en a beaucoup des émeutes, c'est la crise du service de santé, elle est à l'échelon de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, mais dans la province sud aussi. Vous aviez déjà pris un train de mesures, des mesures incitatives, vous les élargissez encore, hein.
Oui, on les élargit à d'autres professions, parce qu'en fait, on a des problèmes sur... les médecins, c'est ce qui se voit le plus, et c'est ce que les gens retiennent, mais on a aussi des problèmes sur toutes les professions de santé. En réalité, les infirmiers, les sages-femmes, les kinés, on a des difficultés dans toutes les professions de santé. Nous, on arrive, parce qu'on y met des moyens importants, on arrive au sein de la province sud à avoir... Tous nos dispensaires qui disposent de personnel de santé, médecins et infirmiers.
Il y a des nouveaux médecins à Thio et à Yaté.
On arrive à apporter cette réponse Honnêtement, on ne sait pas pour combien de temps, pour deux raisons. D'abord parce qu'on a du mal à faire venir des personnels de santé dans ces endroits-là, et d'autre part parce que souvent, il y a de l'insécurité. Donc là, il y a un travail qui est fait avec les populations locales, avec les responsables coutumiers, pour que nos personnels de santé soient en sécurité. Et je l'ai dit très clairement, si nos personnels de santé étaient à nouveau menacés, cambriolés, attaqués, nous les mettrions en sécurité, donc nous les sortirions de ces zones-là. Donc c'est clairement un deal. C'est nous, on fait le travail et on met l'argent qu'il faut pour permettre à tout le monde d'avoir une réponse. Parce que clairement, vous savez, on parle de manière pudique de perte de chance. C'est-à-dire, on dit le fait de ne pas avoir de médecin, non, c'est concrètement. Et nous, on le voit dans nos dispensaires de la Fouette Bouraille, hein, on le voit. Ce sont des gens qui arrivent, qui auraient pu être sauvés s'il y avait eu une réponse médicale proche, et qui arrivent en situation où ils ne peuvent pas être sauvés. Donc ce sont concrètement des gens qui meurent.
Plus généralement, vous avez le sentiment que l'État fait ce qu'il faut aujourd'hui pour assurer la sécurité. Vous le disiez au début, il y a des mesures qui ne dépendent pas de vous, forcément. Ça reste, c'est une compétence d'État, l'ordre public, la sécurité. L'État a mis les moyens, il continue à les mettre, et vous êtes rassuré pour les prochaines semaines, les prochains mois ?
Alors, oui, l'État met les moyens. Il y a toujours 20 escadrons de gendarmes mobiles présents sur le territoire, en plus des forces qui sont présentes habituellement. La stratégie qui est mise en place par les forces de sécurité intérieure, gendarmerie nationale, police nationale, sont rassurantes. Mais, vous savez, on a vécu le 13 mai en pensant que l'État était prêt. L'État ne l'était pas. Donc, je pense que tant qu'on n'aura pas vu concrètement la manière dont la réaction se fait, on ne sera pas les uns et les autres complètement rassurés. Mais ce qu'on peut dire, et j'en ai discuté avec le ministre de l'Intérieur, c'est que les forces sont présentes, les forces sont organisées. Le retour d'expérience du 13 mai a été pris en compte. Toutes les erreurs et tous les échecs du 13 mai ont été pris en compte de manière à ce que ces erreurs ne soient pas refaites. Donc, théoriquement et dans tout ce qui nous a été présenté, l'État est prêt en matière de réponse en termes d'ordre public.
Mais on reste vigilant.
Exactement.
Vous rentrez de métropole, hein, vous avez passé quelques jours, vous avez pu voir beaucoup de gens. C'était avant la chute du gouvernement Bayrou, mais vous avez pu quand même, j'imagine, faire passer un certain nombre de messages sur la situation de la Calédonie, sur l'accord de Bougival.
C'était pas vraiment avant, puisqu'en fait, le vote de confiance était déjà programmé et on savait que le vote de confiance allait être perdu par François Bayrou, donc on savait qu'en gros le gouvernement était en sursis et le nouveau était déjà presque en train d'être constitué. Donc j'ai vu toutes les forces politiques du Parti socialiste jusqu'au Rassemblement national. J'ai pas vu LFI. Bon, je pense que c'est difficile. Ça va être difficile de
LFI
les convaincre.
LFI qui intervient pourtant beaucoup sur le dossier calédonien.
Oui, mais il porte une voix qui est. Vous savez, je constate aujourd'hui qu'il y a la voix de LFI qui veut le chaos en France, hein, qui porte cette voix de la révolution, du chaos. Elle est portée ici par une partie du camp indépendantiste. Je considère qu'aujourd'hui, le camp indépendantiste est divisé en deux positions. Une partie des indépendantistes n'étant pas encore positionnée dans ces deux positions, en dehors du pour ou contre Bougival, il y a une partie qui veut l'indépendance avec tout le monde, considérant qu'ils veulent prendre le temps de convaincre ceux d'entre nous, loyalistes, qui pourraient basculer dans le camp indépendantiste. Et il y a une partie qui veut l'indépendance par le chaos et en faisant partir suffisamment de non-indépendantistes pour devenir majoritaire. Et on voit bien dans cette position-là qu'on a une partie de ce que porte LFI. C'est la réussite par le chaos. Moi, je ne crois pas qu'on arrive à quoi que ce soit par la violence ou par le chaos.
Alors c'est donc Sébastien Lecornu qui a été nommé Premier ministre. Sébastien Lecornu, on le connaît bien en Calédonie. Vous le connaissez bien, vous avez siégé avec lui au gouvernement d'Elisabeth Borne. Tout d'abord, au niveau national, est-ce que c'était le bon choix après l'expérience Attal, Barnier, Bayrou, Emmanuel Macron, et c'est Sébastien Lecornu, est-ce que c'est la bonne personne au bon moment ?
Je pense que c'est très très dur de trouver un équilibre sur le budget. Tout simplement parce que le problème n'est pas que budgétaire. Le problème, c'est que le Rassemblement national a intérêt à la dissolution, que tout le monde est en campagne présidentielle. Donc, a priori, c'est très dur de trouver un équilibre. Et je pense que si quelqu'un peut le trouver, cet équilibre, c'est Sébastien Lecornu. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais en tout cas, c'est le plus habile dans la négociation. C'est celui qui a gardé les meilleures relations et avec le Parti socialiste et avec le Rassemblement national. C'est celui qui, s'il y a des équilibres trouvables, peut les trouver. Donc je pense que c'est un bon choix, en dehors du fait que c'est un ami, mais je pense que c'est le meilleur choix à ce moment de l'histoire. Je ne sais pas s'il réussira. Je pense que le challenge est compliqué, compte tenu de la proximité avec les élections présidentielles. Mais c'est la bonne personne au bon moment, oui.
Vous avez eu l'occasion de le rencontrer récemment, de parler avec lui, notamment de l'accord de Bougival, puisque c'est une partie de l'actualité calédonienne qu'il ne connaît pas encore. Lui, il était parti bien avant.
Oui, oui. D'abord, je le vois régulièrement quand je vais à Paris. Mais en plus, il se tient au courant, lui, et il pose régulièrement des questions sur l'évolution de la situation. Je lui ai fait part, évidemment, du soutien au projet de Bougival, qu'il soutient également. Je lui ai aussi fait part du fait que je pense que ce serait plus simple pour la Nouvelle-Calédonie si Manuel Valls restait à ce stade. Sébastien Lecornu est un irritant pour le camp indépendantiste, il faut dire les choses. Les uns et les autres n'ont pas gardé un bon souvenir de lui. Et Manuel Valls, c'est un ami des indépendantistes plus que c'est un ami à nous. Donc je pense qu'il y a besoin d'un équilibre. Donc Manuel Valls, ce n'est pas mon meilleur ami et chacun sait...
Ça va mieux quand même.
Ça va mieux, évidemment. Mais je pense que pour la Nouvelle-Calédonie, dans le processus dans lequel on est, à l'endroit où on en est rendu avec un projet de loi constitutionnelle à porter, une consultation organisée, etc., je pense que Manuel Valls reste la bonne personne pour porter le dossier calédonien.
Et ce ne serait donc pas un retour du dossier calédonien à Matignon, même si le Premier ministre connaît très bien la Calédonie, mais à votre avis, il serait préférable que le ministre des Outre-mer démissionnaire retrouve son portefeuille, ça paraît la
solution. Oui, je trouve que dans le on serait juste après Deva, je vous aurais dit, il faut que Manuel Valls s'en aille et que le dossier soit repris à Matignon. Aujourd'hui, on a trouvé un accord. Cet accord, il est soutenu par une grande majorité des Calédoniens, je crois, des partis politiques également. Manuel Valls maintient un lien avec ceux qui ont quitté la table pour essayer de voir comment les faire revenir d'une manière ou d'une autre. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles je suis profondément en désaccord avec Manuel Valls. Il a une vision de... Il considère que parce que la Nouvelle-Calédonie a été colonisée, forcément, il faut donner une forme de... il faut donner à la Nouvelle-Calédonie une perspective d'indépendance. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et on est profondément en désaccord. Il est respectueux de la parole qu'on a prise. Il est respectueux du processus dans lequel on est. Donc je pense que c'est bien que Manuel Valls porte le dossier, c'est bien que Sébastien Lecornu garde un regard sur ce qui se passe, et je sais qu'il le fera, mais je pense que c'est un bon équilibre.
Ça vous a étonné que l'UNIM ait presque cette condition du maintien de Manuel Valls pour rester dans le processus de Bougival ?
C'est jamais bien de mettre des conditions, parce que je pense que ça a tendance à irriter. Vous savez, Manuel Valls n'est pas le meilleur ami de ceux qui sont aux commandes aujourd'hui de la France. Donc, je suis pas sûr que mettre des conditions comme ça aide beaucoup. Mais bon, ils l'ont fait, dont acte. Il se trouve que je partage cet avis, donc je pense que.
On va
attendre de voir si on est entendu.
On va attendre la composition du gouvernement Lecornu. Attendant la semaine dernière, on s'inquiétait un peu sur le calendrier en se disant s'il n'y a pas de Premier ministre nommé rapidement, ça peut plomber un peu le calendrier. Maintenant, ça y est, les choses vont pouvoir reprendre leur cours normal. On attend la prochaine étape, c'est la loi organique sur le report des élections provinciales. Ça devrait se passer normalement et dans les temps, finalement.
On ne sait pas, parce qu'en fait, donc c'est prévu pour l'instant le 20 au Sénat, mais la proposition de loi organique sur le report des élections ne peut être traitée que s'il y a un gouvernement. Or, pour l'instant, nous avons un Premier ministre, mais nous n'avons pas encore de gouvernement. Je pense que Sébastien Lecornu prend le temps de trouver les équilibres qui lui permettront également d'éviter la censure, en tout cas d'essayer de limiter, d'éviter la censure, en attendant la construction d'un budget. Donc il va peut-être prendre un peu de temps, je ne sais pas, hein, mais pour faire son gouvernement. Et si le 20, il n'y a pas de gouvernement encore, le texte sera un peu reporté. Mais en tout cas, ça fait partie. Et le président du Sénat que j'ai rencontré également et la présidente de l'Assemblée sont parfaitement conscients du fait que c'est l'urgence et que c'est sans doute un des premiers textes, voire le premier texte qui sera examiné une fois que le gouvernement sera constitué.
Le Congrès, lui, va se prononcer pour avis lundi prochain. Le FLNKS, le nouveau FLNKS, comme on l'appelle, continue, lui, à réclamer la tenue des élections provinciales avant le 15 novembre 2025. Il peut avoir gain de cause, il peut être entendu, il a un moyen de peser sur les choses ou il est trop minoritaire aujourd'hui pour que ça...
Ah, vous savez, tout est possible en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour l'instant, les élections provinciales ont lieu le 30 novembre. Le problème de fond, c'est que tout le monde veut aller aux élections, moi la première. Je considère que ce mandat est trop long, que la légitimité des élus passe par les élections. Je suis démocrate et donc il faut que les élections aient lieu. Et honnêtement, je préférerais que les élections aient lieu le plus rapidement possible. Sauf qu'on n'a pas de corps électoral. On a un corps électoral actuel qui sera de toute façon contesté par nous, donc, et on gagnerait sans doute la contestation. Donc ça veut dire que quelques mois après l'élection, elle serait annulée et on devrait recommencer. Quelle stabilité ça apporte à la Nouvelle-Calédonie ? Aucune. Ça, c'est si les élections avaient lieu avec un corps électoral gelé. Et si mercredi, le Conseil constitutionnel décide que le corps électoral ne peut pas rester gelé, les indépendantistes vont contester le fait que les élections se fassent avec un corps électoral dégelé, sans accord global. Donc, c'est insoluble. Évidemment qu'on souhaite faire les élections le 30 novembre prochain. Je pense que tous les élus le souhaitent. Ce mandat, il n'en finit plus. Mais c'est, à un moment donné, on ne peut pas dire, les indépendantistes ne peuvent pas dire d'un côté, on veut un accord global, le signer, parce que je rappelle quand même qu'ils l'ont signé, et puis d'un autre côté, dire, bah non, finalement, il faut les élections, alors que le problème du corps électoral n'est pas réglé.
Vous faites allusion à la réponse du Conseil constitutionnel sur la QPC, qui a été déposée par l'association Un cœur, une voix. Si elle obtient gain de cause, qu'est-ce que ça change ? Ça dégèle complètement le corps électoral ? Quelles vont être les conséquences juridiques d'une telle décision, si elle est rendue dans ce sens ?
En fait, tout est possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Conseil constitutionnel, il dispose de la gomme, mais pas du crayon. C'est-à-dire qu'en fait, le Conseil constitutionnel va pouvoir dire que cette disposition est inconstitutionnelle. Mais le Conseil constitutionnel ne va pas réécrire un nouveau corps électoral. Il va renvoyer au pouvoir constituant, au Parlement, le fait de prendre une disposition qui, elle, serait conforme. Donc, on n'aura pas une décision qui dit que le corps électoral, il devient glissant à 10 ans. Ça n'existe pas. C'est le Conseil constitutionnel ne dira pas ça.
Il n'a pas le droit d'être...
Mais par contre, ce que le Conseil constitutionnel peut faire, c'est dire que le corps électoral ne peut pas rester comme ça. Ou, à contrario, le corps électoral peut rester comme ça. C'est ça que devrait faire le Conseil constitutionnel.
Et alors ensuite, pour la réécriture du corps électoral, c'est l'accord global, c'est Bougival, et donc c'est l'adoption de la loi constitutionnelle.
C'est ça.
Alors ça, c'est une nouvelle étape, évidemment. Donc loi constitutionnelle que vous avez retravaillée avec le comité de rédaction quand Manuel Valls était là la dernière fois, présentée au Sénat, à l'Assemblée, et puis au fameux congrès de Versailles, majorité et 3/5, tout ça... dans un délai très contraint. Manuel Valls parlait du 15 décembre, avec un gouvernement pas encore constitué, avec une majorité flottante. Est-ce que c'est jouable ? Vous y croyez aujourd'hui ? Vous pensez que la loi constitutionnelle va être adoptée avant la fin de l'année ?
Vous savez, nous, maintenant, moi, j'aborde les choses étape par étape. Donc,
on est chaudés.
Voilà, je ne dis pas tout va bien se passer, vous inquiétez pas, on votera avant le 28 février pour ou contre Bougival, et puis on va faire les élections avant le 28 juin, et puis non, je ne peux pas vous répondre ça. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, donc le projet de loi constitutionnelle a été inscrit pour passer en Conseil des ministres le 17 septembre prochain. Je ne sais pas s'il y aura un gouvernement le 17 septembre, donc s'il y aura un Conseil des ministres. Si ça ne passe pas le 17, c'est prévu de passer le 24. Donc le processus doit suivre son cours. Vous savez, il peut s'arrêter et perdre du temps ou être abandonné à tout moment. On peut imaginer une censure avant la fin de l'année. Si le gouvernement se met en place, on peut imaginer une nouvelle censure. On peut imaginer une dissolution, on peut tout imaginer qui fasse que le processus échoue. Par contre, c'est une réalité. Moi, je défends le fait que le processus continue, parce que je crois que c'est l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie que le processus aille au bout, que les Calédoniens s'expriment, que majoritairement ils soutiennent cet accord de Bougival et qu'on arrive à enfin reconstruire la Nouvelle-Calédonie. Je crois aussi dans le fait qu'on peut continuer les discussions avec un certain nombre de personnes du FLNKS et qu'on peut réussir à avoir une adhésion autour de...
Il y a des modifications possibles, des éléments sur lesquels vous seriez prêt à...
C'est pas des modifications. Le problème de fond, c'est en fait le problème qu'on a avec le FLNKS aujourd'hui n'est pas un problème de savoir qu'est-ce qu'il faudrait éclairer, ajouter, etc. Le problème, c'est la légitimité de ceux qui signent. Vous savez, ça fait trois fois, moi je commence à un peu connaître le fonctionnement. On a eu une première fois Daniel Goa, Roch Ouamitan, Jacques Lallier, qui devant le président de la République disent on est d'accord pour le troisième référendum le 12 décembre 2021 et on ne le boycottera pas. Je cite. Parole non tenue, acte 1. Acte 2, Gérald Darmanin qui propose un corps électoral à 7 ans, nous on avait proposé 3 ans. Les indépendantistes leur déposent un papier disant « Nous, on n'acceptera pas moins de 10 ans. » Signé. Papier signé. Et qui finalement disent « Ah ben non, non, mais on a signé sous la contrainte, machin. Finalement, on se rétracte, on veut plus 10 ans. » Et ça donne le 13 mai. Et puis maintenant, Bougival, on a des gens là qui sont... Parce qu'on peut se poser la question de la légitimité de ceux qui signent. Les gens qui ont signé Bougival ont été nommés officiellement par le FLNKS, par le bureau politique du FLNKS, pour être les négociateurs. Au final, on dit, ah ben non, ceux-là aussi, chut, black boulet, ils sortent. Et donc, on en a des nouveaux. Mais moi, j'ai rien contre les nouveaux. Je discute avec les gens qui sont légitimes. Mais sauf que, qui nous dit que demain, on trouverait un nouveau compromis avec les personnes qui sont désignées et qu'il n'y en a pas d'autres qui arriveraient de derrière et qui diraient, ah ben non, on va leur taper dessus à eux aussi, ils dégagent et c'est des nouveaux. C'est pas sérieux. La réalité, c'est qu'il y a une partie des gens qui sont aujourd'hui décideurs au sein du FLNKS, pas tous, mais il y a une partie qui ne veut pas d'accord. Pourquoi ? Pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la théorie du chaos. L'accord, ça permet aux gens de rester, ça permet aux gens d'être bien ici, et donc ça ne permet pas la stratégie de faire partir les gens, qui est la stratégie d'une partie du FLNKS. Donc ceux-là ne veulent pas d'accord, ils veulent le chaos, et donc ils n'ont aucun intérêt à ce que qui que ce soit signe. Donc moi, ce que j'ai indiqué à aux nouveaux discuteurs, négociateurs du FLNKS que j'ai eu l'occasion de voir, c'est de dire « réglez vos problèmes d'abord ». Régler vos problèmes de légitimité d'abord.
On peut rien pour eux, l'État peut rien pour eux.
Ah non, c'est un problème entre eux. C'est pas moi qui vais dire qui c'est qui est légitime au sein du FLNKS. Donc, qui se mettent d'accord, qui donnent le mandat réel à quelqu'un de signer quelque chose autre que l'indépendance au 24 septembre 2025, parce que ça n'arrivera pas. Enfin, soyons sérieux, dans un compromis, c'était un des signataires qui me disait ça hier, un des signataires de Bougival qui, depuis, s'est fait couper la tête, qui me disait... ils n'ont pas encore compris que personne ne peut avoir 100% de ce qu'il veut. Bougival, c'est pas 100% de ce que veulent les indépendantistes et c'est pas 100% de ce que veulent les non-indépendantistes. Chacun a fait des concessions. Donc, tant que ceux je sais pas si c'est ceux qui décident, mais enfin bon, en tout cas, qui parlent, n'ont pas compris ça, on n'y arrivera pas.
Et en métropole, vous dites que vous avez eu tout le monde, sauf LFI. Leur position sur Bougival, est-ce que là, il y aura un accord, un soutien de toute la classe politique, enfin, largement ou...
J'ai l'impression, il y a des
Rassemblement national, il y a des réticences encore.
Le Parti Socialiste essaye, malgré tout, la position du Parti Socialiste, en particulier du Parti Socialiste de l'Assemblée, c'est d'essayer de ramener tout le monde. Donc ils continuent de faire des démarches auprès d'Emmanuel Tchibaou, auprès du FLNKS, pour essayer de ramener tout le monde. Donc le Parti Socialiste essaye, malgré tout, de trouver des solutions. Et le Rassemblement national dit pas, on signe les yeux fermés Bougival parce que vous avez trouvé un accord. Le Rassemblement national dit, nous, on regardera les textes qui nous sont présentés et on regardera si ça correspond à nos valeurs et à ce qu'on défend. Donc le vote du projet de loi constitutionnelle, au 3/5, il n'est pas acquis à ce stade. Il va falloir faire un travail de conviction des parlementaires. Je pense que la démarche qui a été initiée par Manuel Valls de comité de rédaction qui fait qu'au final, les signataires valident et acceptent la rédaction dans le détail de ce qui sera ensuite voté par le Parlement, ça donne du poids. C'est-à-dire que concrètement, les parlementaires qui vont avoir à examiner le texte, ils savent que mot par mot, équilibre par équilibre, tout aura été validé par le comité de rédaction, donc par les forces politiques calédoniennes.
Et les forces politiques calédoniennes, ça leur permet d'éviter les ambiguïtés, les pièges, les...
Et sans doute les amendements d'opportunité des partis nationaux qui connaissent pas bien les équilibres et qui se disent « bah non, mais il faut mettre ça, bah oui, mais si tu mets ça, il faut mettre ça aussi, parce que sinon tu perds l'équilibre ». Enfin, c'est complexe comme équilibre. Donc, honnêtement, Elisabeth, on est loin d'être arrivé, hein. on est loin de l'aboutissement. Chaque étape est une étape complexe. On y met les uns et les autres, Nicolas Metzdor, Virginie Rufnak, chacun avec Alcide Ponga, chacun avec ses réseaux. On y met beaucoup d'énergie pour que les choses se passent bien, étape par étape. Là, la prochaine étape, c'est la composition du gouvernement et la loi de report sur les élections.
Et localement, ça se passe comment ? Vous faites des réunions les uns et les autres. Il y a encore des réticences, il y a encore des oppositions. Vous avez l'impression que globalement, vos sympathisants, vos adhérents ont adhéré à l'esprit de Bougival ?
On a fait un énorme travail de terrain. On a fait le choix, avec les signataires de l'accord de Bougival, de se séparer et de faire des réunions chacun pour essayer de voir le plus de monde possible en un minimum de temps. Ce qu'on a fait, donc on a fait un travail d'explication très important, tous les soirs, on a été en réunion. Il y avait des inquiétudes, il y en a toujours parfois, il y a des questionnements. Il y avait une des grosses inquiétudes qui a été levée avec la rédaction du projet de loi constitutionnelle, qui était la question de la nationalité. La nationalité, ce qui inquiétait les Calédoniens, à juste titre ou pas, je me permettrai pas de commenter, c'était de dire, est-ce que finalement, si la Nouvelle-Calédonie venait à devenir indépendante un jour, le fait qu'on ait une nationalité calédonienne risque de nous enlever la nationalité française. C'était ça qu'on avait tous les soirs comme question. Là, ce point-là est complètement, cette inquiétude-là est complètement levée par la rédaction du projet de loi constitutionnelle, qui prévoit explicitement que personne ne puisse nous enlever notre nationalité française, quoi qu'il arrive à la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que c'est de nature à rassurer ceux d'entre nous qui étaient inquiets.
Beaucoup de réunions, beaucoup de travail, on l'a vu, on n'est pas encore sorti, enfin, Bougéane n'est pas encore adopté. Il y aura sans doute ou peut-être une consultation des Calédoniens sur le texte. Et puis après, des élections 2026, on ne va pas arrêter. Vous êtes déjà dans cet esprit de campagne électorale. On arrive à tout faire. Et dans quel état d'esprit vous êtes avant ces échéances? En principe, municipal en mars, ça va se tenir. Et en principe, provincial en juin prochain.
Alors, il y a des choses qui sont en principe. La consultation sur Bougival et celle sur les élections provinciales, la date n'est pas fixée et la certitude qu'elles aient lieu n'est pas faite. Celle des élections municipales, elle est certaine. Les élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars, ça, personne n'y coupera. Mais potentiellement, effectivement, les Calédoniens auront à voter trois fois d'affilée dans le premier semestre de l'année 2026.
Enfin, ils ont l'habitude. Hein.
Ils ont l'habitude, c'est effectivement. Mais bon, ça reste voilà. Donc on est à la fois dedans, sans y être vraiment, parce qu'on est quand même très, très focalisé sur la question de l'avenir institutionnel. Mais notre gros enjeu, et ce sur quoi on est les uns et les autres très vigilants, c'est sur l'union. C'est-à-dire qu'on considère que dans la situation de la Nouvelle-Calédonie, le camp non-indépendantiste ne peut pas être désuni. Et donc, on travaille à ce que, partout où c'est possible, je parle des municipales, pour les provinciales, la question ne se pose pas, on partira ensemble. Mais pour les municipales, ce n'est pas toujours possible. Mais là, partout où c'est possible, on essaiera de faire des listes d'union.
Avec le risque, vous craignez quand même que ça crée des fractures, ça crée des problèmes avant les provinciales notamment.
C'est compliqué. On sait très bien, par exemple, qu'au Mont d'Or, Nina Julier sera contre Elisabeth Rivière. Je ne vois pas comment on évitera ça. On essaye de faire que ce combat... Et on y arrive bien, très objectivement. On fait la part des choses, que ce combat électoral ne contamine pas le reste. Et c'est vrai qu'on fait... On a partagé suffisamment de choses et on est suffisamment les uns et les autres... le Rassemblement, les loyalistes, conscients des enjeux qui sont les nôtres pour faire complètement la part des choses. Et chacun défendra ses candidats et ça ne nous empêchera pas l'union sur le reste.
Donc un calendrier sûr pour les municipales. Pour le reste, si jamais Bougival n'arrive pas à prospérer, qu'est-ce qui se passe? C'est le statu quo, c'est le vide, le
Alors,
vide absolu.
Ça dépend de comment ça se passe. Ce qui peut arriver, c'est un décalage de la consultation. Ce qui peut arriver également, c'est de dire... Finalement, on vide le projet de loi constitutionnelle de tout ce qui peut être irritant et on ne laisse finalement que la consultation. Dans ce cas-là, les Calédoniens s'expriment d'abord et après, on fait la mise en œuvre de Bougival. Là, pour l'instant, on a un espèce de mix des deux, puisque dans le projet de loi constitutionnelle, il y a déjà le terme d'État, il y a déjà la nationalité, il y a déjà le dégel du corps électoral. Donc en fait, qui ne sera mise en place que si les Calédoniens le votent. Mais c'est déjà écrit dans le projet de loi constitutionnelle. On pourrait imaginer faire les choses en deux temps pour essayer de concilier les positions des uns et des autres. Donc, en fait, si l'accord de Bougival, pour répondre à votre question précisément, si Bougival, la consultation donnait lieu à un non des Calédoniens, là, très clairement, on reviendrait à ce qu'on appelle la situation ainsi créée, et donc on viendrait à la réexaminer, et il y aurait de nouvelles discussions, de nouvelles négociations. Je crois pas dans ce soit la probabilité la plus importante. Je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est de faire arriver à la consultation. Une fois qu'on est arrivé à la consultation, je crois dans le fait que les Calédoniens le soutiennent cet accord. Mais il faut y arriver. Et ça, je suis pas sûr que ça arrive avant le mois de février, vu toutes les incertitudes qu'il y a.
Avec la nécessité également de relancer l'économie, c'est aussi l'une des grosses préoccupations. Et c'est aussi ce qui va permettre ou non la réussite de Bougival et de sa mise en œuvre.
Et vice-versa, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu, après la signature de Bougival, il y a, on le voit depuis, un frémissement économique. On a un regain de confiance qui a été un peu calmé par les positions du FLNKS, mais qui, malgré tout, le fait de se rendre compte qu'on est capable de trouver un accord, il y a eu un côté rassurant, regain de confiance, de retrouver des perspectives qui fait repartir l'économie. Et le fait que l'économie reparte fait aussi que ça motive les gens à revivre ensemble et à retrouver des solutions ensemble. Donc c'est un équilibre. Et c'est vrai que le fait que si Bougival était remis en cause, je pense que ça mettrait un coup derrière la tête du monde économique notamment, des chefs d'entreprise qui ne verraient pas vraiment la manière dont l'avenir se construit.
Beaucoup d'actualités en perspective encore. Merci Sonia Bacazard d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci.